France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Inter. Le film Superman sorti en salle le 9 juillet est une super production dans laquelle le super-héros à la cape rouge ne fait pas que sauver le monde, il déclenche une tempête politique. Pourquoi ? Parce que le réalisateur James Gunn ose comparer Superman à un immigrant illégal. Une lecture pourtant fidèle du personnage, né sur une autre planète, élevé dans le Midwest, mais un sacrilège pour une partie de l'Amérique conservatrice dont le héros, symbole du patriotisme, serait en réalité un clandestin. L'art est-il devenu trop woke ? Nous voilà replongés dans cet éternel débat. Trop woke, est-ce avoir le tort de vouloir représenter le monde tel qu'il est, divers, conflictuel, traversé par les luttes ? Ou est-ce le symptôme d'un art devenu moralisateur, trop occupé à cocher des cases pour laisser place à l'ambiguïté, au trouble, à la liberté esthétique ? En France aussi, la question divise. Selon une enquête du ministère de la Culture réalisée en 2023, 62% des moins de 30 ans estiment que les musées doivent refléter la diversité des identités et des luttes sociales. Mais 47% des plus de 55 ans pensent, eux, que la culture devient trop politique au détriment du plaisir esthétique. Le clivage est générationnel, mais aussi philosophique. L'art doit-il accompagner les combats d'aujourd'hui ou rester un espace autonome, irréductible aux injonctions du moment ? Peut-être que cette crispation dit moins quelque chose de l'art que de nous. Notre rapport au monde qui change, nos repères qui bougent et une difficulté à accepter que d'autres voix prennent la parole. Alors faut-il choisir entre l'art pour l'art et l'art engagé ? L'art est-il vraiment libre s'il doit toujours plaire à tout le monde ? Comment éviter aussi le piège de cette guerre culturelle et son opposition schématique entre partisans du statu quo et militants woke intransigeants ? On en débat jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi. Saskia Deville.
Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez vous aussi prendre part à ce débat. Réagissez sur l'application Radio France ou envoyez-nous des notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Pour débattre de ce sujet passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir ce midi en studio Samuel Fitoussi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et chroniqueur au Figaro, auteur de ce livre Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. J'ai également le plaisir de recevoir par téléphone Laure Murat. Vous êtes historienne et écrivaine, auteure de « Toutes les époques sont dégueulasses », paru aux éditions Verdier. Bonjour Laure Murat.
Bonjour.
Florian Guettet, vous êtes philosophe et critique d'art. Vous venez, vous, co-diriger un ouvrage collectif baptisé « Les mondes de l'art à l'âge du capitalisme culturel aux presses universitaires de Vincennes ». Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Également avec nous, pour clôturer bien ce plateau, Didier Rickner, fondateur de la Tribune de l'Art, auteur de « Mauvais genre au musée », paru aux Belles Lettres. Bonjour à vous et bienvenue également.
Bonjour.
Et on entend même les cigales derrière vous. Vous êtes au téléphone avec nous pour participer donc avec ce sujet, ce wokisme, une censure déguisée ou une justice symbolique. Une première question pour vous quatre qui nous accompagnez. Est-ce une manière légitime de faire évoluer la culture ou une nouvelle forme de censure ? Et je vais commencer avec vous, Samuel Fitoussi.
Alors, à mon sens... l'art politique, l'art engagé a toujours existé et il ne s'agit pas de s'indigner qu'il existe de l'art contenant des messages politiques. La question qui se pose aujourd'hui, et c'est celle, et c'est ce que je dénonce dans mon livre, c'est la question de l'obligation qui pèse aujourd'hui sur certains artistes dans certains secteurs de se soumettre à des commandements idéologiques, si vous voulez. Il y a aujourd'hui, par exemple, Le Monde, il y a deux ans, révélait que dans le monde anglo-saxon, le journal Le Monde révélait que dans le monde anglo-saxon, la plupart des maisons d'édition pour enfants ont recours à des lecteurs en sensibilité qui passent sur les manuscrits avec des gros stylos et font des tas de changements pour supprimer tout ce qui pourrait inciter au mauvais comportement, tout ce qui pourrait envoyer les mauvais messages, tout ce qui pourrait implicitement relever du racisme, tout ce qui pourrait factuellement ne pas être tout à fait conforme à la réalité. Donc aujourd'hui, il y a le poids de cette censure qui pèse sur les auteurs. Il y a la censure, il y a ce qu'on voit, ce qui est censuré aujourd'hui. Il y a la censure qui existe en amont quand les œuvres sont encore au stade de l'écriture. Et il y a pire que ça, il y a l'autocensure dans le cerveau des écrivains qui savent que, ou des scénaristes dans le monde du cinéma, on en parlera peut-être, qui savent que pour pouvoir être publié aujourd'hui, en raison de l'unanimisme idéologique qui règne dans certains secteurs du monde de la culture, il faut déjà se conformer à divers commandements idéologiques. Et c'est compliqué d'écrire de la bonne fiction ou des bonnes œuvres quand l'écriture devient un champ de mine idéologique dans lequel il faut se frayer un délicat chemin.
Laure Murat.
Oui, bonjour. Alors, je crois qu'il faut rappeler un certain nombre de points. C'est que l'art est politique, de toute façon. Il n'y a pas d'un côté l'art pour l'art et de l'autre l'art engagé. Vous parlez de Gustave Courbet, c'est un artiste politique. Hein, le réalisme est une préoccupation politique en 1830 ou 1850. Donc ça n'a jamais cessé. Après, c'est la façon dont on le fait. Et là, je crois qu'il faut être bien clair. Quand il s'agit de corriger des textes du passé, moi, c'est une option que je trouve malheureuse. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que si vous corrigez les textes du passé dans un sens qui correspond davantage à nos préoccupations légitimes contemporaines, vous aboutissez, un, à un mensonge historique, et deux, vous privez les opprimés de la mémoire de leur oppression. Hein, autrement dit, si vous faites de James Bond un proto-féministe, il y a beaucoup de travail, vous ne comprendrez plus rien à la misogynie des années 50. Donc ça me semble pas une bonne option. Quant à l'autocensure des auteurs, personnellement, en France, moi, je n'y crois pas. Si un lecteur sensible sur lequel on s'acharne, alors que, bon, il n'est qu'un employé d'une maison d'édition, il faut aussi convoquer les éditeurs, parce que moi je parle de la littérature, on peut parler de l'art contemporain aussi, hein, les galeristes, le choix de tous ces gens-là, c'est des acteurs indispensables. Le lecteur sensible vous indique. Si vous dites des bêtises sur la communauté noire, la communauté gay, etc., un auteur de roman policier ira voir un inspecteur de police. Je ne vois pas où est le problème. Je crois qu'il faut, arrêter de penser à cette panique morale, soi-disant, qui nous empêcherait de penser ou empêcherait de créer. Par ailleurs, je pense qu'on revient toujours à la phrase de Gide, on ne fait pas de littérature avec des bons sentiments. On ne fait pas nécessairement une bonne littérature avec des mauvais sentiments non plus, vous voyez ? Donc je crois qu'il y a une aspiration légitime à faire en sorte que nos imaginaires soient refaçonnés de façon à ce que le monde soit plus acceptable, soit plus égalitaire. Ça me semble bien. Après, il y a des méthodes pour ça. Et je crois qu'il y a certaines méthodes actuelles qui ne sont pas bonnes, d'autres qui sont excellentes. Je n'ai pas vu Superman, mais je vais m'y précipiter, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand on réinterprète des mythes, quand on invente à partir de caractéristiques données. Ça m'intéresse. Mais si c'est pour corriger des petites choses ici ou là et faire du dépoussiérage, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. C'est ma position.
On va évidemment explorer ces différentes méthodes tout au long de ce débat. Avant cela, Didier Rickner, quel est votre point de vue sur cette question ?
Alors, sur le fait que l'art est politique, a toujours été politique, c'est évident, tout le monde sera d'accord. Je pense que c'est le point sur lequel tout le monde sera d'accord. Moi, je ne parle pas d'art contemporain, ou assez peu, j'en parle un...
Didier Rickner, qu'on va retrouver dans un instant. Donc, je vais tout de suite me tourner vers Florian Guettet pour répondre à cette question.
Ben effectivement, si on doit parler du caractère fondamentalement politique de l'art, il faut aussi rappeler pourquoi. Et là, je suis assez proche de la pensée de Jacques Rancière quand il dit que finalement l'art agit dans le partage du sensible, c'est-à-dire qu'il opère cette distribution de la parole, de la visibilité. Il peut dire qui parle, qui a droit de parler, qui a le droit de se montrer, selon quelle hiérarchie. Et là, évidemment, on touche à un des enjeux de ce mouvement militant ou simplement conscient, qu'on appelle wokisme. Là aussi, on pourrait s'interroger sur la légitimité de ce terme. Et donc, l'art est forcément un des lieux où cette tension entre des forces progressistes et conservatrices vient se rendre visible. Une tension entre l'invention, on va dire, de nouveaux mondes, et la préservation de formes historiques ou culturelles qui seraient peut-être plus patrimoniales. Et le dialogue entre les deux, bah, c'est cette dimension critique de l'art. Après, une fois qu'on a parlé de l'art politique, du point de vue des œuvres, des imaginaires et des représentations, il faut aussi parler du monde de l'art en tant que monde socio-professionnel, économique, en tant que monde concret, j'ai envie de dire. Et là, il y a une urgence à rééquilibrer certaines tensions, certains rapports de force. Il faut si on devrait faire un premier bilan de ce wokisme de cette période-là, si on prend un peu de recul, eh bien il faut mesurer l'impact considérable que ce mouvement a eu sur les habitudes culturelles, sur les institutions en matière d'éducation au regard, de représentation des minorités, de conscience écologique, d'accessibilité, de parité homme-femme, notamment dans les recrutements et les collections ou les achats dans les collections publiques. Donc, bien sûr qu'il y a encore énormément à faire. Il y a beaucoup de stratégies de cautionnement, ce qu'on appelle tokenisation dans les institutions. Mais ces progrès étaient non seulement nécessaires, ils répondaient vraiment, ils ne sont pas qu'idéologiques, ils répondaient quand même à une inégalité sociale très concrète et à une volonté aussi de déconstruire une sorte d'hégémonie occidentale qui rééquilibre des rapports de force mondiaux et qui viennent finalement nourrir le projet démocratique. Et ça aussi, c'est le partage du sensible dont parle Rancière.
Mais justement, c'est amusant parce que là, on va retrouver Didier Rickner dans un instant, mais déjà, vous trois, vous avez chacun votre point de vue sur la question. N'est-il pas tentant de juger les œuvres, et je vais parler d'œuvres du passé, on viendra à la nouvelle création par la suite, mais de juger les œuvres du passé à l'aune de nos propres critères moraux et surtout, qui est finalement socialement autorisé à définir ces nouvelles normes ? Samuel Fitoussi.
Oui, c'est ça le problème, c'est que j'entends ce que l'intervenant précédent disait, mais
Florian Guettet.
Excusez-moi, Florian Guettet, j'entends tout à fait ce que vous disiez, mais la question c'est on peut juger ces changements, c'est votre droit le plus légitime de juger ces changements souhaitables, mais est-ce votre droit de l'imposer aux autres? Et à mon sens non, et c'est ça qu'on observe aujourd'hui, c'est que des tendances, des obligations idéologiques sont dictées à des artistes dans certains milieux. Et les oblige à se conformer à des commandements idéologiques que peut-être eux-mêmes n'épousent pas.
Vous avez un exemple en tête, Samuel Fitoussi ?
Par exemple, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'aux États-Unis, toutes les grosses sociétés de production audiovisuelle sont abonnées à des cabinets de conseil dits de diversité et d'inclusion qui relisent tous les scénarios avant le tournage et disent attention, dans cette scène, ça va pas, une femme est un peu trop passive, donc ça pourrait véhiculer de la misogynie. Attention, le temps de parole n'est pas bien distribué entre différents groupes ethniques, etc. Et donc réécrivent tous les scénarios avant le tournage. Donc il y a quand même cette censure, il y a ces commandements idéologiques qui sont imposés pour ne pas faire de vagues parce que le monde de la culture penche très fortement à gauche et qu'il vaut mieux ne pas déplaire à une certaine partie de la gauche que à la droite. C'est peut-être en train de changer aujourd'hui. D'autres exemples, si vous voulez, c'est en 2023, le Festival de Cannes avait invité Mai Wen. Mai Wen fait polémique, déplaît à une partie de la gauche. Je dis pas évidemment toute la gauche, mais une partie de Mai Wen déplaît à une partie de la gauche. Et ça avait beaucoup heurté, ça avait fait une grosse polémique au Festival de Cannes. Et l'année suivante, le directeur du Festival de Cannes avait dit, cette année, nous avons veillé à faire un festival sans polémique, sous-entendant très, très explicitement qu'il avait veillé à ne pas inviter d'artistes comme Mai Wen. Donc le message envoyé aux artistes qui divergent de la pensée, de la doxa, si vous voulez, woke, assez hégémonique, c'est attention, si vous devenez trop clivant, vous ne serez pas réinvité à Cannes. Or, être invité à Cannes, évidemment, pour un cinéaste français, c'est le graal d'une carrière. Donc, voilà, tout le monde est sur ses gardes, tout le monde fait très attention. Donc, il règne une forme de pression sociale qui menace aujourd'hui, qui à la fois est institutionnalisée sous certains aspects, on pourrait
y
revenir.
On va y revenir, évidemment.
Et qui à la fois existe sous forme de pression sociale, simplement, et menace, à mon sens, la liberté d'expression, la liberté de création.
On va continuer à en parler, je suis sûre que vos propos vont faire réagir nos autres invités. Juste avant cela, à midi 18, je vous propose d'écouter ce titre signé Mathieu Bogarts. Il faut toujours écouter son corps sur France Inter.
Il faut toujours écouter son corps. Il faut toujours l'écouter, c'est meilleur. Cette erreur.
pas être sourd, pas que tu ignores. Quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir, ou courir ou dormir, tout ce qu'il a à te dire. Aussi. Toujours bien écouter s'il frémit, s'il s'emballe, s'il s'affole ou s'il ralentit, somnole. Il faut toujours l'écouter, ça oui. Ne pas le nier, à mon avis. En deux mots, il faut tendre l'oreille, c'est tout. Il le faut, c'est un conseil pour vous. Être sûr à tous les coups, il faut toujours écouter son pouls. C'est la nature, voilà tout. Quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir, quand il dit il faut courir, quand il dit il faut dormir.
Toujours écouter son corps, titre de Mathieu Bogarts à midi et 21 minutes sur Inter. Et vous pouvez continuer à réagir à ce débat, chères auditrices, chers auditeurs, sur l'application Radio France. Vous pouvez aussi nous envoyer des notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. On a déjà reçu des messages et une question qui revient très souvent, c'est la définition même de woke dans la culture. Les choses sont encore floues, je pense, pour pas mal de nos auditrices et de nos auditeurs. Luc écrit « Woke, c'est quoi ? Ça ne veut rien dire. Un concept idéologique sans définition utilisé par ceux qui refusent tout débat sur tout sujet. Ce terme devait être banni. » Eloane nous dit ceci. Déjà, le terme « woke » dans l'intitulé pose problème. Il s'agirait de le définir et d'expliquer d'où il vient, par qui il est utilisé, etc. Mais je vais me tourner vers Didier Rickner. Je le rappelle, vous êtes fondateur de la Tribune de l'Art. Quelle est votre propre définition du wokisme dans l'art, justement?
C'est réinventer l'histoire pour de bons combats, mais par des mauvais arguments. C'est un peu ça, en fait. Les wok ont de bons combats. Le combat contre l'homophobie, le combat contre le réchauffement climatique, le combat contre le sexisme, le combat contre le racisme, ce sont évidemment de bons combats que je partage et que beaucoup partagent. Mais simplement, on le fait avec de mauvais arguments et en réinventant l'histoire et en voulant réécrire l'histoire. Pour moi, c'est ça le wokisme. Et ça, c'est plutôt contre-productif qu'autre chose.
Laure Murat.
Oui, alors là, je ne suis pas d'accord. D'abord, il faut rappeler que woke, c'est une insulte. Et que ceux qui se revendiquent woke aujourd'hui, comme moi, je pourrais me revendiquer woke. Moi, j'étais très sensible au livre de Pierre Thévagnan qui s'appelle « Soyons woke ». Mais j'ajouterais « Soyons woke avec méthode ». Voilà. Et woke, ça vient de l'argot noir américain, qui serait le participe passé du verbe réveiller, être éveillé. Oui. Voilà, être éveillé aux problématiques de notre temps, éveillé. Alors en effet, tous les combats que
les injustices sociales,
Monsieur Rickner. Voilà, et c'est devenu une insulte et un fantasme de la droite et de l'extrême droite. Et il y a une position de la gauche, une minorité de la gauche, qui dit, eh bien, retournons le stigmate, hein, en fonction de... Voilà, c'est une chose connue en sociologie. On retourne le stigmate et on se revendique woke, c'est-à-dire on reprend l'insulte à notre compte et on dit, bon ben d'accord, moi je suis woke. Si être woke, c'est être contre la misogynie, le racisme et la catastrophe écologique, moi je suis woke, personnellement. Alors après, il y a des méthodes. Il faut le faire avec méthode.
Voilà. Et on va en parler de ces méthodes.
Mais il n'y a pas de, j'aimerais juste ajouter qu'il n'y a pas de mouvement woke. Vous ne trouverez pas un parti woke ou voilà. Le wokisme, c'est l'ennemi juré de Donald Trump. On pourrait aussi définir ça comme ça.
Le woke, c'est une insulte pour vous, Samuel Fitoussi?
Je pense que déjà, il faut rappeler que le terme wokisme est à la base une auto-appellation. C'est les militants woke eux-mêmes qui se décrivaient comme woke pour se dire qu'ils étaient éveillés aux structures de domination qui structuraient nos sociétés, alors que le reste de la société était endormi. Ensuite, c'est pas parce que le terme aujourd'hui est surtout utilisé péjorativement qu'il n'a aucune pertinence sociologique. Je vais vous donner un autre terme ou aucune pertinence politique. Je vais vous donner un autre terme qui aujourd'hui est utilisé surtout péjorativement et dont peu de gens se revendiquent et qui pourtant possède une pertinence politique, c'est tout simplement le terme extrême droite. Laure Murat disait que les woke n'étaient pas un mouvement parce qu'il n'y a pas de parti woke, il n'y a pas de parti qui se revendique aujourd'hui d'extrême droite. Et pourtant, le terme extrême droite possède une pertinence politique parce qu'il permet de placer des gens sur l'échiquier politique et on voit ce qu'on veut dire quand on utilise le terme extrême droite. Ensuite, je pense que le terme wokisme est très facile et très bien définissable. Je pense que le wokisme, en effet, regroupe un ensemble de croyances qui n'ont pas forcément le même héritage intellectuel, mais qui ont tout en commun d'accabler l'Occident et de dresser le procès des sociétés occidentales. Je peux donner certaines de ces croyances, si vous voulez. Une de ces croyances, le militant woke croit que nos parcours de vie et nos expériences en société sont davantage déterminés par nos appartenances identitaires que par notre singularité. Avant d'être un individu, chaque citoyen serait le représentant d'un groupe. Une autre de ses croyances, le militant woke pense que pour combattre le racisme, il faut replacer la couleur de peau au cœur de la conversation publique. L'universalisme serait une hypocrisie qui nous empêche de traiter efficacement le problème. Troisième croyance, le militant woke a tendance à attribuer toute disparité statistique entre groupes à des dynamiques de domination. Et quatrième croyance, je m'arrêterai là, mais on peut en citer d'autres, le militant woke croit que c'est la réalité qui découle de nos représentations collectives plutôt que l'inverse. Il soutient donc la transformation des imaginaires par le contrôle idéologique de nos produits culturels, de la grammaire et du langage. Et une dernière, le militant woke pense que l'on peut être biologiquement un homme, mais être au fond une femme, et vice-versa. Voilà, et ces croyances, je pense que beaucoup de gens à gauche ou très à gauche pourraient y adhérer, pourraient dire oui, j'adhère à ces croyances. Donc je ne pense pas que c'est un procès, un homme de paille que j'ai créé. Je pense qu'il y a évidemment certaines croyances, qu'on peut évidemment renommer le terme woke, il est arbitraire, on peut choisir le terme qu'on veut, mais il y a un mode de militantisme et un ensemble de croyances structurants aujourd'hui quelque part sur le spectre politique à gauche ou à l'extrême gauche, qu'on peut très bien regrouper sous le terme bannière woke, et ça ne me semble pas, à mon sens, être abusif.
Être une insulte, comme le disait Laure Murat. J'ai le plaisir aussi d'accueillir ce midi Mathieu Touzet, qui est metteur en scène et directeur du Théâtre 14 à Paris, créateur de ce festival Woke, ça va bien se passer, c'était en avril dernier. Bonjour et bienvenue à vous, Mathieu Touzet.
Bonjour.
Je pense que cette thématique et étant donné le titre de votre festival, eh bien ça vous fait aussi pas mal réfléchir.
Bah oui, totalement. Surtout qu'elle s'impose un peu aujourd'hui au milieu culturel, en particulier dans le spectacle vivant d'où moi je viens. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi comme titre de festival. Et d'ailleurs, je précise tout de suite qu'un festival, c'est une partie d'une programmation et c'est pas l'intégralité d'une programmation à laquelle maintenant on est très vite ramené, puisqu'on est très vite ramené à quelque chose. Et en effet, c'est un sujet qui est aujourd'hui au centre de nos conversations et de nos créations.
Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette étiquette woke ?
Moi, je serais plutôt dans la lignée de Laure Murat et je suis d'accord avec elle quand elle dit que c'est une étiquette qui est vraiment très fluctuante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de constater, de la manière dont le terme est utilisé, que ça n'est qu'un mouvement qui conteste une histoire ou qui veut réécrire une histoire. On voit dans la manière dont il est attribué aujourd'hui aux œuvres que certaines œuvres sont qualifiées de woke. Je vois même Le Figaro a qualifié l'architecture nouvelle de woke. On voit que c'est un terme qui est très fluctuant et qui est très utile, qui est souvent utilisé en opportunité et pour condamner. Et donc à partir du moment où on vient condamner, ça pose question sur la silenciation que ça provoque.
Et cela colle parce que vous parlez d'œuvres, mais cela colle aussi une étiquette sur les artistes.
Oui, totalement. Et en général, on fait un amalgame des deux. Mais pour dire qu'en fait certaines œuvres ne devraient pas avoir d'espace dans le domaine public et en particulier dans le financement public. Et on voit beaucoup de politiques se positionner un peu d'ailleurs en opposition avec ce qui a été dit sur le fait que les artistes étaient trop politiques, alors qu'on vient de l'entendre que les artistes étaient souvent politiques. Et ce qui vient derrière, c'est que cette politique, elle est trop à gauche, trop progressiste, donc woke, donc devrait être interdite ou en tout cas non financée.
Florian Guettet, vous faites la distinction entre effectivement un monde culturel qui pencherait plutôt vers la gauche et ceux qui détiennent finalement le pouvoir de faire jouer ces artistes, de propager cette culture-là.
Oui, tout à fait. Juste avant, je voudrais revenir sur le mot de croyance qu'employait Samuel Fitoussi. Enfin, il faut quand même rappeler que on parle là de méthode, on parle d'épistémologie, on parle de recherche, de concept, on parle de positionnement et de conscientisation politique, sociale. On parle pas de croyance. On parle pas simplement de quelque chose comme ça qui serait complètement éthéré et qui ne serait fondé sur rien. Et les recherches en humanité nourrissent quand même cette pensée progressiste, qu'elle soit militante ou pas, et qu'on l'appelle wokiste ou pas, même si là, je ne changerai pas une virgule à ce qu'a dit Laure Murat sur sa définition. Alors pour revenir effectivement sur cet autre biais, cette vision biaisée de voir le monde de l'art comme quelque chose d'uniforme et sociologiquement ancré à gauche, je crois que le biais vient souvent du fait qu'on réduit ou qu'on aborde le monde de l'art, le monde de la culture, à partir de la voix des artistes, parce que ce sont ceux-là qui sont les plus visibles, plus audibles, les artistes, parce que précisément, ils n'ont que ce moyen d'action, à savoir l'expression, la représentation. Mais en fait, force est de constater que les moyens de production, les moyens d'action, sont aujourd'hui aux mains de forces qui sont loin d'être majoritairement progressistes. Les faiseurs et les faiseuses de rois, notamment dans l'art contemporain, qui est plus mon domaine, ce sont quand même les fondations privées, ce sont les collectionneurs, ce sont les galeristes, ce sont certains directeurs et directrices d'institutions, de conservateurs. Et en fait, le rapport de force ne penche pas du tout en fait en faveur des forces de gauche, si j'ai envie de, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Et on le voit notamment à travers un troisième point qu'il faut déconstruire, c'est l'idée que aujourd'hui les artistes seraient censurés ou se censuraient eux-mêmes en raison de ces prismes idéologiques. Qu'il faudrait des quotas pour tout, etc. Mais aujourd'hui, l'autocensure, elle se repositionne dans un contexte de backlash, c'est-à-dire de retour de bâton, qui fait qu'on ne parle plus aujourd'hui de l'autocensure de la même façon qu'on pouvait en parler il y a encore quelques années, parce que les menaces de coûts budgétaires, la décomplexion d'un certain discours de censure, et puis une vraie immixtion du politique dans les programmations, font que l'autocensure, elle se situe plutôt, ou elle est plutôt initiée par des forces conservatrices, des franges de droite qui reproduisent finalement les mêmes mécanismes qu'ils ont critiqués hier. L'intimidation, l'annulation, des interpellations directes par exemple de conseillers à la région sur des théâtres, des suppressions de subventions parce que dans des dossiers de demande de subventions, on a utilisé l'écriture inclusive comme ça a été fait en PACA avec Courtrage-Mé, des demandes de lettres d'excuses publiques pour une photo de com qui a été jugée déplacée. Enfin, on arrive quand même là à des absurdités qui sont les mêmes emballements que ce qu'on a pu reprocher à des certains débordements de mouvements militants un peu radicaux. Et puis les coupes budgétaires inouïes qu'on connaît aujourd'hui, notamment dans le spectacle vivant, font aussi que les programmations se réorientent vers des choses qui sont plus grand public, plus familiales, plus consensuelles, et qui quelque part, de toute façon, plaisent davantage à des publics qui ne sont pas des publics de wokies, si on emploie ce terme. Donc, moins il y a d'argent, moins il y a de place pour l'expérimentation ou l'incisif, moins on politise, entre guillemets. Et finalement, cette utopie de voir le monde de la culture comme un concentré de dangereux gauchistes qui diffuseraient leurs idées est quand même à nuancer aujourd'hui dans ce contexte.
Et on va continuer à en parler, notamment des nouvelles créations. Faut-il représenter autrement ou imposer des normes? Et est-ce qu'on se dirige vers un art normatif ou un nouvel espace d'invention? À 12h33, je vous propose tout d'abord d'écouter ce titre, Darling Eye, de Tyler, the Creator. Whatever you do, don't ever
never tell no bitch you love her. If you don't mean it, don't tell us.
Jet.
Darling, I keep falling.
Ready to drift, La Ferrari handle better and it's pretty as shit. Feel safe in the grove, big boy when I drive. Love them all for different reasons at the same damn time. See monogamy, that shit is not for me. One option for everybody, don't you lie to me. Too many dudes, I'm too curious to try to be. Hiding things, feel ashamed of the side of me. Cause honestly, T is not perfect. So how can I get everything from one person? I'm at the altar, but I'm still searching. I'm only human, if it ain't work, things change. And nothing stay the same, I believe. Maybe letting go is a beautiful thing. Perfect for the time being, I ain't do nothing wrong. Life is short, but forever it's so goddamn long. I like a long time, I'm on my own time. I love this good old, I hit the gold mine. I'm thinking new crib, I'm thinking two kids. Until I get infatuated with a new bitch. But when that gray hair finally come, at least I felt something if I ain't find the one. Nobody could fulfill me like this music shit does. So I'll be lonely with these Grammys when it's all said and done. Come on.
Darling Eye, titre de Tyler, The Creator, à 12h35 sur France Inter.
Le débat de midi, Saskia Deville, sur France Inter.
L'art est-il trop woke? On en débat aujourd'hui avec Samuel Fitoussi, essayiste et chroniqueur au Figaro, et par téléphone avec nous également Laure Murat, historienne et écrivaine, Florian Guettet, philosophe et critique d'art, et puis Didier Rickner, fondateur de la Tribune de l'Art. Il y a, on a évoqué beaucoup les méthodes sur lesquelles vous n'êtes tous les quatre pas d'accord. Il y a, voilà, effacer peut-être une œuvre existante, il y a la réécriture, il y a aussi la contextualisation. Justement, si on revient, avant de parler de création aujourd'hui et de tout ce que cela implique, revenir sur les œuvres du passé existantes, quelle est pour vous quatre la meilleure des solutions, ou peut-être la moins pire? Je ne sais pas comment je dois formuler. Je vais commencer avec vous, Laure Murat.
Oui, merci. J'aimerais juste revenir sur une chose importante. On a l'impression, à entendre certains des commentateurs, que l'idéologie ne serait que de gauche. Mais je rappelle qu'on a subi pendant 100 ans, par exemple, un cinéma totalement misogyne. Il faut comprendre, et ça aussi c'est idéologique, hein, il faut bien comprendre ça. Et il faut aussi comprendre que le wokisme est né de MeToo et de Black Lives Matter. Et ça, ce sont des mouvements qui révèlent que nous sommes toujours dans un monde post-colonial, que nous sommes toujours dans un monde très misogyne. Je ne vais pas vous rappeler les actualités récentes de Gisèle Pelicot, etc. Et qu'il y a un problème dans les rapports de domination que reflète aussi l'art de façon idéologique. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de contre-idéologie, mais qu'on ne nous explique pas que les gauchistes sont les seuls idéologues. Premier point. Votre question concernait les œuvres du passé, c'est ça?
Exactement.
Par rapport aux œuvres actuelles? Voilà. Alors, moi j'ai une position, mais bon, c'est la mienne, hein, et je la partage. Il me semble que il faut impérativement adresser tous ces problèmes, comme l'art l'a toujours fait, hein, je répète. Et inventer plutôt que corriger. C'est ça, plutôt que amender, qui me semble pas une bonne raison pour ce que j'ai dit, pour la raison que j'ai expliquée au début. On aboutit à un mensonge historique. Mais en revanche, quand il s'agit, comme par exemple Percival Everett, qui est un écrivain noir américain, qui reprend Huckleberry Finn, le fameux livre de Mark Twain, du point de vue de l'esclave. Le livre sortira en septembre, c'est un immense chef-d'œuvre. Percival Everett est un très grand écrivain. Là, tout d'un coup, vous avez quelque chose de vraiment neuf avec une structure qui existait autrefois. Ça, ça me paraît intéressant. Quand il y a réinvention, ça me paraît tout, et création, là, j'ai l'impression qu'on prend on tire le problème vers le haut et pas vers le bas. Pénélope Bagieu a réécrit Roald Dahl à sa façon. Elle ne corrige pas Roald Dahl, elle invente autre chose à partir de quelque chose que le patrimoine artistique nous donne et dont il faut profiter. Voilà.
Samuel Fitoussi, vous créez, inventez, mais vous constatez que dans cette création, dans cette invention nouvelle, il y a une marque, une empreinte.
Je pense que déjà, pour rebondir sur ce qui a été dit un peu plus tôt, évidemment que l'idéologie existe des deux côtés. Et moi, quand l'idéologie impose des contraintes à la création, je m'y oppose, peu importe d'où elle vient. Maintenant, il faut aussi rappeler qu'il n'existe pas en France de droit à être subventionné, de droit à recevoir l'argent du contribuable. Moi, je me réjouis évidemment que la culture soit financée, mais ce n'est pas complètement anormal que le politique désubventionne des choses qui vont trop fort dans un sens et uniquement dans un sens. Le contribuable n'a pas à financer contre son gré une idéologie à laquelle il est défavorable. Maintenant, concernant la réécriture des œuvres, je pense qu'une chose très importante qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas en modifiant nos représentations culturelles qu'on modifie la nature humaine et qu'on modifie les comportements. Évidemment, il y a énormément de problèmes sociaux qui persistent, contre lesquels il faut lutter, mais si vous voulez, l'art n'est pas performatif. C'est pas parce que vous représentez quelque chose à l'écran que les gens vont s'empresser de reproduire ces comportements. La causalité va beaucoup en sens inverse, malheureusement. Par exemple, récemment, à l'opéra de Florence, la fin de Carmen a été réécrite parce que il ne fallait pas montrer le meurtre d'une femme.
Le féminicide, exactement. Voilà. Donc c'est l'inverse. C'est Carmen qui tue Don José.
Oui, donc ils ont changé. Le féminicide est montré dans cette œuvre parce que malheureusement les féminicides existent dans la réalité et ce n'est pas dans ce genre d'œuvre. Les féminicides évidemment ne sont pas glorifiés. S'il y avait des œuvres qui glorifiaient les féminicides, là évidemment ce serait autre chose, mais simplement montrer des féminicides parce que malheureusement c'est une part sombre de la réalité dans laquelle on habite, c'est pas en supprimant toutes ces représentations qu'on va modifier la réalité. Donc je pense que la logique est complètement fallacieuse. Et
ça dit, ça existe dans des ouvrages récents, on peut penser au livre de Raphaël Quesnard, qui a beaucoup fait parler.
Oui, bien sûr, mais qui a fait polémique aussi.
On peut parler aussi de réécriture de la muséographie, et je pense que c'est quelque chose auquel vous êtes fort intéressé, Didier Rickner, dans les musées publics français.
Je me suis surtout intéressé à la muséographie, à ce qu'elle est. Elle ne me gêne pas beaucoup. Ça me gêne quand on vient nous raconter que, par exemple, comme on l'a fait au musée de Lyon, qui pourtant est un excellent musée, hein, on nous raconte que les rois mages, la représentation des rois mages est raciste, en disant que le mage noir, Balthazar, il est plus loin du Christ que les autres, ce qui est d'ailleurs complètement faux. Serait-il plus loin, ça ne voudrait rien dire, mais il n'est pas plus loin, ça dépend des œuvres. Enfin, c'est n'importe quoi. Quand on en arrive à nous raconter n'importe quoi, c'est ça que je dénonce. Je pourrais juste revenir aussi à ce qui a été dit tout à l'heure, là, que effectivement, il y a une réécriture de l'histoire, pas seulement par la gauche, mais qui a parlé d'extrême droite et de droite et d'extrême droite? Qui a politisé le débat ici? Je ne crois pas que ça m'a fait aussi, c'est pas moi non plus. Donc, cette lecture politique que je dénonce aussi, parce qu'il y a des gens de gauche qui sont complètement anti-woke, elle ne me paraît pas bonne. Et pour en revenir aussi à Trump, on parle souvent de Trump, je pense que Trump, que j'aborde, hein, moi dès qu'on parle de Trump, je m'éloigne, je ne veux pas parler de ce type-là. Mais Trump, il a créé ce mouvement inverse. C'est-à-dire, les wokistes, pardon, ont créé Trump. Les wokistes ont créé Trump. Et en France également, je pense que le wokisme va tellement loin qu'il y a une réaction et qu'on en vient à censurer. Et il y a du wokisme de droite, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, il y a du wokisme de droite qui s'attaque à des choses, et c'est scandaleux aussi. Donc on ne doit pas s'attaquer à l'art pour des raisons idéologiques, on doit simplement le regarder et l'interpréter, et le regarder et l'étudier sous un angle historique, me semble-t-il.
Et ce wokisme n'est pas qu'une question de conviction, il peut avoir aussi un intérêt économique, et ça c'est quelque chose que vous soulevez, Laure Murat.
Oui, parce que, pour un cas un peu particulier, j'ai observé que les œuvres de Roald Dahl avaient été rachetées par Netflix à partir du moment où l'éditeur s'était engagé à réécrire ou récrire, comme je l'explique dans mon livre, les œuvres de Roald Dahl. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte d'alibi, si vous voulez, financier, hein, à ses affaires, et où il y a une collusion malheureuse entre des lecteurs sensibles ou une idéologie qui veut bien faire et des exigences économiques. Ça, c'est une collusion malheureuse. C'est pour ça que je dis que la méthode est mauvaise. Hein, ça, c'est très nettement mauvais, puisque vous finissez par faire la même chose alors que vous venez de pôles politiques complètement opposés. Et ça me paraît dangereux. Voilà. Il ne faut d'ailleurs jamais oublier la composante économique et financière de ces questions.
Alors j'ai encore une réaction ici d'un auditeur qui nous écrit ceci. Est-ce que se plaindre du wokisme ne serait pas une variation sur l'éternel « on ne peut plus rien dire » Surtout dans la mesure où on n'a jamais été aussi libre de dire des choses et que s'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, comme l'appel à la haine ou au terrorisme, il est difficile de dire que cette interdiction est une mauvaise chose. C'est votre avis, Samuel Fitoussi?
Je pense que c'est pas parce que certaines interdictions sont bonnes et souhaitables que toutes les interdictions, quelles qu'elles soient, sont bonnes et souhaitables. Et c'est pas parce que ceux qui disaient dans le passé qu'on pouvait plus rien dire avaient tort que ceux qui le disent aujourd'hui ont nécessairement tort. Il y a des époques, il y a des lieux où la liberté d'expression est en effet menacée. Et je pense pas qu'elle l'est menacée dans la société occidentale de 2025, mais dans certains sous-segments de cette société, notamment dans le monde de la culture, dans le monde du cinéma, comme je le démontre dans mon livre, oui, aujourd'hui, certains créateurs doivent faire très attention à ce qu'ils écrivent.
Et vous l'entendez, hein, à travers ces tensions, l'art continue à jouer son rôle, nous déranger, nous déplacer, nous obliger à penser autrement. Voilà qui signe déjà et beaucoup trop vite la fin de notre débat de midi. Merci à nos invités, Samuel Fitoussi, je rappelle votre livre « Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries » aux éditions Cherche Midi. Laure Murat, « Toutes les époques sont dégueulasses » aux éditions Verdier. Florian Guettet, cet ouvrage collectif « Les mondes de l'art à l'âge du capitalisme culturel » aux presses universitaires de Vincennes. Et puis Didier Rickner, auteur de « Mauvais genre au musée aux belles lettres ». Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci aussi à toute l'équipe du débat de midi. Louise Morfois et Aurore Mancip à la programmation. Nos stagiaires Anaé Balista et Ryan Saibi. Une programmation musicale de Djoubaka. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Corentin Rouchy. Merci enfin à nos documentalistes Béatrice James et Patricia Miura.